Radio Vatican, France-Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée samedi 24 juillet, notamment par les activités du pape. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira en Sierra Leone, en Somalie et en Éthiopie, entre autres.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Commençons par l'actualité de l'Église avec la semaine du pape présentée par Donatien Niembo.
Le programme du voyage apostolique du pape François à Budapest et en Slovaquie a été rendu public mercredi par la salle de presse du Saint-Siège. Du 12 au 15 septembre prochain, le souverain pontife visitera 5 villes, commençant par la capitale hongroise pour la messe de clôture du 52e congrès eucharistique international, poursuivant avec la capitale slovaque Bratislava et faisant escale par les 3 villes slovaques de Košice, Prešov et Šaštín. Mercredi, le Saint-Père avait adressé un télégramme aux nonces apostoliques en Irak, Monseigneur Leskovar, télégramme dans lequel il faisait part de ses condoléances après le tragique attentat suicide qui a ensanglanté la capitale irakienne mardi. Sa sainteté, le pape François, pouvait en lire dans ce télégramme signé par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, a été profondément attristé d'apprendre la nouvelle de la perte de vies humaines dans l'explosion du marché Al-Wealta à Bagdad et envoie ses condoléances aux familles et amis de personnes décédées. Toujours mercredi, François avait également adressé au recteur Franco Anelli de l'Université catholique à Rome une lettre qui a réchauffé les cœurs de toute la famille universitaire. Son admission à la polyclinique Gemelli, écrivait le pape, a eu lieu l'année même où l'Université catholique a célébré son premier siècle de vie. Au chapitre des nominations, mardi, le Saint-Père avait nommé membre de la congrégation pour les évêques Monseigneur Jorge Ignacio Garcia Cuerva, évêque de Rio Gallegos. Le Saint-Père avait adressé lundi une lettre à M. Carlo Frati Pasini, président du conseil d'administration de la Fondation Polyclinique Universitaire Agostino Gemelli, dans laquelle il remercie le personnel médical de l'hôpital pour leur accueil et leurs soins. Comme en famille, j'ai reçu un accueil fraternel et une attention cordiale qui m'ont fait me sentir chez moi, avait écrit François.
L'administration du patrimoine du siège apostolique, l'APSA, a publié samedi le budget du Saint-Siège, une année difficile qui a obligé les services du Vatican à réduire leurs dépenses. Afin de soutenir les activités au service de la mission du pape, moins d'argent a été prélevé sur le denier de Saint-Père que par le passé, mais une aide plus importante a été apportée aux églises des pays les plus touchés par la pandémie. C'est ce qui ressort du bilan consolidé du Saint-Siège que le jésuite Juan Antonio Guerrero Alves, préfet du secrétariat pour l'économie, a présenté. Pour l'année 2020 marquée par la COVID-19, le clerc souligne que le résultat a même été légèrement meilleur que le meilleur des scénarios hypothétiques après l'apparition de la pandémie. La bonne nouvelle, dit-il, c'est que grâce aux efforts consentis, les résultats sont très proches de ceux d'une année normale. En effet, explique-t-il, le déficit ordinaire est inférieur de 14,4 millions d'euros à celui de 2019, 64,8 millions d'euros en 2020 contre 79,2 millions d'euros l'année précédente. La première journée mondiale des grands-parents et personnes âgées est célébrée dimanche 25 juillet. Au programme de cette journée, instituée par le pape, une messe célébrée en la basilique Saint-Pierre, mais aussi des événements dans les paroisses et une prière officielle. Au Vatican, la Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées est marquée par une messe célébrée à 10h, heure de Rome, en la basilique Saint-Pierre, présidée par Monseigneur Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. En Côte d'Ivoire, notre correspondant local nous rend compte de la cérémonie d'admission et de prise de soutane de 11 grands séminaristes du diocèse d'Odienné dans le nord du pays. C'était dimanche 18 juillet dernier, au cours d'une cérémonie d'admission et de prise de soutane présidée par le père Delphin Oussungan à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Séguéla.
C'est une première dans le diocèse d'Odienné à voir ce nombre de 11 candidats officiels au sacerdoce. Une joie pour le clergé diocésain, mais également les parents, amis et connaissances venus nombreux pour cette cérémonie d'admission de prise des soutanes. Dans son homélie, le chargé des vocations du diocèse d'Odienné, le père Delphin Ousungan, les a invités à cultiver dans leur cœur les mêmes sentiments que Jésus, un Dieu amour, compassion et miséricorde.
Vous êtes bergers les uns des autres, que ce soit dans vos maisons de formation, que ce soit en communauté. Dans le bien, vous êtes appelés à vous reprendre, à vous corriger, à vous exhorter, à vous encourager réciproquement. Il ne doit pas avoir de trait au milieu de vous parce que Judas est déjà parti. Des gens qui vont vouloir se faire remarquer par les formateurs et aller vendre leurs frères, il ne doit pas avoir au milieu de vous. Vous marchez vers le sacerdoce pour servir l'Église et tous les hommes comme Jésus. Travaillez et cultivez en vos cœurs, comme dit saint Paul, les mêmes sentiments que Jésus. Il aimait, il pardonnait, il avait la compassion, il comprend l'humanité, il relève, il soutient, il accompagne, il nourrit, il réconforte. Parce que tout cela, vous êtes appelés à le faire demain.
Notons que ces grands séminaristes, après l'étape du cycle de philosophie, abordent un autre virage de leur marche vers le sacerdoce avec le cycle de théologie pour 4 ans de formation. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Au Bénin, le nouveau nonce apostolique, Monseigneur Gérard Miles, dès ses lettres de créance au chef de l'État, Patrice Talon.
Jeudi 22 juillet 2021, au palais de la Marina de Cotonou, au Bénin, Monseigneur Gérard Miles, nonce apostolique près le Bénin et le Togo, a présenté ses lettres de créance à Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et ce, environ 3 mois après son arrivée au Bénin. Mais au-delà de l'ambiance de joie ayant ponctué la cérémonie officielle, Monseigneur Miles a tenu à livrer à l'opinion publique quelques-uns des points de son entretien avec le chef de l'État devant la presse nationale à avoir.
Les bonnes relations d'amitié et de coopération des efforts de l'Église catholique ici à Bénin, dans le secteur par exemple de santé, d'éducation, de développement intégral humain, parce que nous parlons toujours de la dimension spirituelle, mais aussi de la dimension matérielle.
On dit également fait objet de discussions entre les deux personnalités, à en croire le diplomate Maes.
Vous savez que Monsieur le Président a visité le pape François en 2018, et nous sommes heureusement dans le 50e anniversaire des relations entre le Saint-Siège et le Bénin.
Et le nonce apostolique de conclure.
J'espère qu'avec ma présence, nous pouvons continuer de développer les bonnes relations d'amitié et de coopération. C'est ma prière que Dieu peut venir à bénisse.
Guy Dossuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
L'Assemblée nationale de Sierra Leone a voté vendredi l'abolition de la peine de mort. La peine capitale sera désormais remplacée par une peine d'emprisonnement à perpétuité ou à un minimum de 30 ans. La Sierra Leone a été critiquée par les défenseurs des droits de l'homme pour n'avoir pas aboli officiellement la peine de mort, bien que les dernières exécutions y remontent à plus de 20 ans et que les sentences soient généralement commuées en peine de réclusion à perpétuité. En mai, le vice-ministre de la Justice, Umaru Napoléon Koroma, a annoncé que le gouvernement allait abolir la peine de mort pour faire respecter les droits humains fondamentaux des Sierra Leone. La Constitution Sierra Leonaise de 1991 prévoit la peine capitale pour le vol aggravé, le meurtre, la trahison et la mutinerie. L'armée américaine a mené vendredi une frappe aérienne en Somalie contre des djihadistes Shebab affiliés à Al-Qaïda, la deuxième en 4 jours après une interruption de 6 mois. Le commandement militaire pour l'Afrique, AFRICOM, a mené aujourd'hui une frappe aérienne dans les environs de Keikad, dans la province de Kalmoudoug, à 500 km au nord-est de Mogadiscio. C'est ce qu'a indiqué une porte-parole du Pentagone, Cindy King. Il n'y avait aucun militaire américain au sol aux côtés de l'armée somalienne, a souligné la porte-parole, précisant qu'il s'agissait d'une frappe de drone. Il s'agissait de la deuxième frappe aérienne menée par l'armée américaine en Somalie sous la présidence de Joe Biden. Mardi, l'Africom avait frappé des islamistes Shebab aux environs de Galkayo, à 700 km au nord-est de Mogadiscio. Les autorités de la région éthiopienne de l'Afar ont appelé vendredi la population à prendre les armes contre les rebelles de la région voisine du Tigré, laissant entrevoir un élargissement du conflit qui dure depuis près de 9 mois. Chaque Afar devrait protéger sa terre par tous les moyens possibles, que ce soit des armes, des bâtons ou des pierres, a déclaré le président de la région Awol Arba dans une interview. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix en 2019, a envoyé l'armée fédérale au Tigré en novembre 2020, après des mois de tensions croissantes, pour destituer les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré. Il a déclaré victoire fin novembre après la prise de la capitale régionale Mekele, mais les combats se sont poursuivis et fin juin, les rebelles ont regagné la majeure partie de la région, dont Mekele.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
En République démocratique du Congo, 8 chefs religieux chargés de désigner le président de la commission électorale ont dénoncé vendredi des menaces de tous les côtés visant à perturber ce processus entré dans sa phase finale. Relancé depuis mars, après des violentes manifestations en juillet 2020, le processus de désignation par les confessions religieuses du président de la Commission électorale nationale indépendante doit se clôturer au plus tard le 28 juillet. La justice du Nigeria a condamné vendredi 10 pirates qui avaient détourné en 2020 un navire dans le golfe de Guinée à 12 ans d'emprisonnement, le deuxième procès mené en vertu d'une nouvelle loi contre la piraterie adoptée en 2019. Les 10 pirates étaient accusés d'avoir détourné un navire chinois le 15 mai 2020. La marine nigériane avait réussi à secourir les 18 membres d'équipage à bord et arrêter les 10 ravisseurs. La Haute Cour fédérale de Lagos a également condamné chacun des pirates, tous nigérians, à payer la somme de 250 000 naira, soit 520 euros, selon un communiqué de la marine qui s'était constitué partie civile. La Guinée équatoriale a rejeté des sanctions qualifiées de unilatérales et illégales imposées pour des faits de corruption par le Royaume-Uni contre le fils du président de ce pays, selon un communiqué rendu public samedi par les autorités équato-guinéennes. Théodorin Obiang, vice-président de Guinée équatoriale et fils du président, a été sanctionné jeudi par Londres, notamment pour le détournement de fonds publics et des pots de vin lui ayant permis de financer un train de vie somptueux. Il aurait consacré plus de 500 millions de dollars à l'acquisition de résidences de luxe à travers le monde, d'un jet privé, de voitures et d'objets de collection liés au chanteur Michael Jackson. La méditation des textes liturgiques de ce dimanche avec le père jésuite Michel Ntangou.
Chères sœurs et frères dans la foi, en ce dimanche du temps ordinaire liturgique, la première lecture et l'évangile que nous allons écouter aujourd'hui nous parle de l'épisode de la nourriture distribuée aux gens par les prophètes Élisée et celui de la multiplication de pains au désert par Jésus. Ces deux images préfigurent la réalité contenue dans le pain eucharistique pour un monde nouveau. Aujourd'hui, nous sommes invités à contempler Jésus comme le nouveau Moïse qui nous entraîne dans un nouvel exode vers la terre promise. Et en même temps, il est le nouveau prophète, il est le Messie qui est capable de donner de la nourriture matérielle et de la nourriture spirituelle à l'humanité tout entière. La première lecture du deuxième livre des Rois évoque la scène de 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac que l'on apporta au prophète Élisée pour être distribué à 100 personnes. Celui-ci déclara « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur, on mangera et il en restera. » À l'image du prophète Élisée, l'évangile de Saint Jean aborde cette réalité à travers l'histoire d'une foule affamée au désert, mais qui sera nourri à sa satiété à travers le geste d'un garçon qui présente à Jésus 5 pains d'orge et 2 poissons. C'est presque rien. Mais ce garçon nous rappelle que tout ce que nous donnons de nous-mêmes dans la foi, malgré la pauvreté de nos moyens, Dieu est capable de transformer ses dons en nourriture pour la multitude. Jésus dit aux disciples, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Chers frères et sœurs, quelle est donc la leçon théologique de l'évangile d'aujourd'hui? À travers les siècles, les chrétiens dans le monde entier ont toujours reconnu le Christ dans la fraction du pain et dans l'Eucharistie comme action de grâce au service du prochain pour un monde nouveau. Aujourd'hui encore, Jésus nous associe à sa mission de nourrir les gens et ainsi participer à la surabondante générosité des dieux pour notre monde. Mais l'évangile conclut que la foule voulait faire de Jésus un prophète et un roi à la vue du signe qu'il avait accompli. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui tout seul. Prions le Seigneur afin que nous puissions résister à l'emprise illusoire de la foule, qui cherche souvent à vouloir transformer la mission du Christ en une entreprise purement des réalités matérielles et non spirituelles. Amen.
Le père jésuite Martin Bahati présente le document du magistère Fratelli Tutti.
Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous entamons notre lecture méditative du 4e chapitre de la lettre encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Ce chapitre 4 est intitulé « Un cœur ouvert au monde ». Il est subdivisé en 3 points essentiels, à savoir 1. La limite des frontières. 2. Les dons réciproques. Et 3. Local et universel. L'encyclique commence par cette forte assertion. Je cite. Si l'affirmation selon laquelle tous en tant qu'être humain, nous sommes frères et sœurs, n'est pas seulement une abstraction, mais devient réalité et se concrétise, cela nous met face à une série de défis qui nous bouleversent, nous obligent à envisager de nouvelles perspectives et à développer de nouvelles réactions. Fin de citation. Parlant du premier point, la limite des frontières, le pape François stipule que lorsque le prochain est une personne migrante, des défis complexes s'entremêlent. Plus loin, le pontife ajoute que l'idéal serait d'éviter les migrations inutiles. Et pour y arriver, il faudrait créer dans les pays d'origine la possibilité effective de vivre et de grandir dans la dignité, de sorte que sur place, les conditions pour le développement intégral de chacun puissent se réunir. Mais, constate le pape, quand des progrès notables dans ce sens manquent, il faut respecter les droits de tout être humain de trouver un lieu où il puisse non seulement répondre à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, mais aussi se réaliser intégralement comme personne. Le pape pense que nos efforts vis-à-vis des personnes migrantes peuvent se résumer en 4 verbes. Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Selon le pontife, il ne s'agit pas d'imposer d'en haut des programmes d'assistance, mais d'accomplir ensemble un chemin à travers ces 4 actions. Ainsi, propose l'encyclique, cela implique des réponses indispensables, notamment face à ceux qui fuient de graves crises humanitaires. Le pape cite plusieurs exemples, notamment celui d'augmenter et simplifier l'octroi des visas, d'adopter des programmes de parrainage privé et communautaire, d'ouvrir des couloirs humanitaires pour les réfugiés les plus vulnérables, etc. D'après le pape, il est important d'appliquer aux migrants arrivés depuis quelque temps et intégrés à la société le concept de citoyenneté qui se base sur l'égalité des droits et des devoirs à l'ombre de laquelle tous jouissent de la justice.
Invité du jour.
<t'->
Notre invité du jour est le père Emmanuel Maoussi, curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Bé à Didomé à Lomé au Togo. Dans cet entretien que nous vous proposons, le père Emmanuel Maoussi nous parle de la Journée mondiale des grands-parents. Le père Maoussi commence par saluer cette initiative du pape François. On écoute.
Je salue réellement cette journée et j'espère vivement que nous allons en être les relais à tous les niveaux pour des actions concrètes en vue de porter cela à ce niveau de cœur, d'amour, de proximité que voudrait le pape François à l'égard des personnes âgées. Ces personnes âgées aujourd'hui qui sont dans leur maison à l'idée ont besoin de sentir que nous pensons en eux. Donc, instituer une journée comme telle nous donne l'occasion de repenser, eh bien, à cette action dynamique qui va nous permettre de revoir ce que nous pouvons faire concrètement pour nous faire plus proches de ces personnes qui ont beaucoup donné à l'Église et qui ont besoin de nous aujourd'hui.
Comment la personne âgée est-elle vue aujourd'hui dans nos sociétés africaines?
En Afrique, pendant longtemps, comme on a l'habitude de dire, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Ce que le vieillard voit assis, le jeune le voit pas debout. Le vieillard, il était vu comme cette personne-là de choix, qui est la source, la sécurité, la mémoire du peuple, et bien le dépositaire des traditions ancestrales, celui-là qui aide à garder l'identité, la source. Le vieil était longtemps vu comme tel. Maintenant, nous sommes dans une société en pleine décadence et les vieillards aujourd'hui n'ont plus ce statut-là. Ils sont vus comme des dangers, des menaces. Donc la pratique de l'occultisme, la sorcellerie et les personnes âgées qui se font de plus en plus rares, ils sont vus comme des gens qui se nourrissent de la vie des plus jeunes pour survivre. Et ces personnes âgées, eu égard à la précarité de notre continent, sont des gens qui sont souvent très malades, et bien sont vus aujourd'hui comme des dangers, comme des fardeaux pour les plus jeunes qui ont du mal à s'occuper d'eux-mêmes et qui ne veulent plus penser aux plus âgés. Parce que pour eux, et bien ces personnes âgées tardent à mourir, n'a pas les moyens de survivre, comment prendre soin des personnes âgées. Et donc, l'institution d'une telle journée vient nous rappeler que nous devons nous libérer du carcan des préjudices, surtout nous en Afrique, ces préjudices-là qui nous font stigmatiser les personnes âgées, et au-delà de la souffrance, de la précarité, ne pas penser que les vieillards sont des fardeaux pour nous. Ce ne sont pas des fardeaux, c'est une bénédiction que de s'occuper des personnes âgées. Et donc, aujourd'hui, cela nous rappelle même la place que les vieillards, les personnes âgées occupent dans la pastorale. Le vieillard, il n'est pas seulement celui dont on s'occupe, mais celui-là qui prie pour nous également. Il y a souvent dans nos communautés paroissiales, on forme souvent des comités des sages. On a recours à ces personnes âgées, c'est eux qui nous livrent par exemple l'histoire de la vie de la paroisse, comment les choses ont commencé. Et puis cela renforce bien notre identité de chrétien pour rendre plus proche de ces personnes âgées en redoublant de vigilance et de générosité et par rapport aux visites que nous devons rendre à ces personnes âgées, des petits cadeaux que nous devons leur apporter, la chaleur aux parents aujourd'hui qui sont abandonnés. C'est une façon d'aller les retrouver. Il n'y a pas de maison de retraite ici pour regrouper les personnes âgées. Vous allez voir des personnes âgées dans l'indigence totale et qui ont besoin vraiment de la présence de l'Église.
Et justement, quelle pourrait être la pastorale qui peut être mise en place pour les personnes âgées?
À notre niveau, nous avons dans nos diocèses les CCCB, qui sont des communautés chrétiennes catholiques de base, vont nous permettre de cibler ces personnes âgées-là. Donc nous pouvons regrouper par exemple ces personnes-là dans une maison ou une célébration eucharistique avec eux, apporter des petits présents, les accompagner dans ce sens-là, dans une certaine périodicité. Et à partir de là, nous pouvons trouver d'autres relais, des contacts plus réguliers avec les membres de leur famille pour pouvoir continuer à communiquer. Les fidèles qui nous aident pour la distribution de la Sainte Communion, ils font le tour de toutes ces maisons-là pour que les vieillards puissent communier tous les dimanches. Je crois qu'on peut également, si le diocèse s'organise bien, trouver l'occasion aussi des loisirs, par exemple, parce que les personnes âgées ont besoin aussi de loisirs. Et puis également, je pense aux soins. Ces personnes vivent souvent dans la précarité, n'ont pas les moyens de se soigner convenablement, à garder leur dignité jusqu'au bout. Donc, au-delà de cela, nous pouvons continuer à voir avec les médecins qui sont dans nos communautés ou qui sont proches de nous, des cadres aussi pour que les médecins puissent les visiter et apporter aussi leur réconfort.
Qu'est-ce qui sera fait sur votre paroisse pour le 25 juillet?
Déjà, nous avons organisé une visite systématique et nous préparons déjà des colis. Nous avons déjà des contacts avec les familles. Nous voulons trouver cette occasion pour aller voir ces personnes. C'est un programme qui va s'étendre sur 2-3 semaines. Donc, le partage de la parole de Dieu et apporter un peu de la chaleur à ces personnes-là.
Père, votre mot de fin.
C'est l'occasion pour nous dire, Africains, nous devons retrouver ce que nous sommes véritablement, ne pas nous laisser influencer par les ragots, les réseaux sociaux. Nos parents sont des bénédictions, ils nous ont donné. Et retourner ce que nous avons reçu de nos parents, eh bien cela est source de beaucoup de bénédictions. Parce que celui qui respecte ses parents, il est béni par Dieu, il a une longue vie, une vie paisible. Donc les parents, c'est la source, la grâce de Dieu. Et revenons à ce que nous sommes, retrouvons notre identité d'Africain et que les grands-parents puissent réellement trouver leur place dans nos cœurs encore aujourd'hui.
Père Emmanuel Maoussi, curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de B à Didomé, à Lomé, au Togo, il répondait aux questions de Françoise Niamien.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboileau qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus. Nitamwita, nitamwita, Bwana wangu.